Cour d'éthique par le père Philippe à Saint-Jodard, le 3 octobre 89.
C'est une question qu'il y en a qui peut regarder l'éthique, c'est pour ça que je peux la regarder. Le jeu n'est-il pas une expérience consciente antérieure au travail? Chez l'enfant. C'est sûr, d'une certaine manière, mais au fond, le jeu ne sera pas pour, je dirais, une personne parfaitement consciente de sa vie. La grande expérience humaine, ça se ramènera où? Un dilettantisme. Pas constructif de la personne humaine comme grande expérience. Et le jeu se ramène pratiquement au fait géré, donc au travail. Parce qu'on oppose les deux, n'est-ce pas ? On se détend de son travail en jouant. Et le jeu revient du travail avec la compétition. C'est pour ça que le jeu n'est pas une expérience pleinement humaine. C'est très curieux. Les animaux peuvent jouer d'une certaine manière, plus que travailler. Les enfants jouent. Et l'enfant n'est pas encore arrivé. Vous voyez, on ne peut pas la philosophie du souvenir. Je prends l'homme tel qu'il est capable de réfléchir. Alors, je ne crois pas qu'un homme, quand il est arrivé à l'âge mûr, il commence à réfléchir sur sa vie. Parce que le gosse ne fait pas de philosophie. Alors, je peux me rappeler le début, mais c'est un souvenir. Alors, je ne fais pas la philosophie des souvenirs. Ça m'intéresse, mais c'est second. Sur la même chose, on fait la philosophie de ce que l'on vit actuellement. Or, actuellement, nous ne pouvons pas dire que l'activité du jeu représente une activité première. Vous voyez, elle est seconde. Alors, comme expérience seconde, il y en a des quantités, hein. Ce que je cherche, au point de vue philosophique, il y a toute une réflexion, n'est-ce pas, pour vous dire que les trois grandes expériences, c'est ça. Il y a des quantités d'autres expériences secondes. Mais je prends les expériences fondamentales, irréductibles l'une par rapport à l'autre. Le jeu peut être un jeu amical. On va jouer ensemble, on va se détendre. Oui, alors c'est le jeu des amis. Il y a le jeu compétitif. Il y a le jeu de celui qui ne sait pas quoi faire. Alors, on joue. Le violon d'Ingres. Quand on ne sait pas quoi faire, on joue. Dans un petit coin de sa cellule, il y a le jeu. Il y a l'oratoire d'un côté, puis le jeu de l'autre. Et on attend le père maître pour venir. On dit, on va jouer ensemble. Faire une fois un petit truc sur le jeu, comme détente au niveau du noviciat, passage du jeu à la prière, au travail, à l'amitié. C'est très curieux. Le jeu est très métaxu, intermédiaire, plaque tournante. Vous voyez, la gare de triage pour l'homme. Et ça devient de plus en plus ça. Très très curieux. Dans la mesure où le travail n'est plus humain, le jeu reprend une très grande force. Dans la mesure où le travail est très humain, chez l'artisan, tailleur de pierre, le jeu ne joue pas beaucoup. chez un père de famille qui est un vrai père de famille, le jeu joue avec les enfants. Mais il joue avec les enfants pour être avec eux. La finalité, c'est ça. C'est être proche d'eux. C'est pas pour jouer. Mais c'est dans l'auto-éducation. Dans l'auto-éducation, le jeu joue comme une détente. Alors, c'est ça qui serait à voir. Ce serait intéressant, du reste. C'est intéressant à voir ce que c'est que le jeu. Mais c'est pas premier. C'est ça qui me semble très net. Le jeu est toujours finalisé par autre chose. Il est finalisé au point de vue éducatif. Il faut des détentes, il faut du jeu. À l'école maternelle, c'est le jeu. Quand ça grandit, le jeu tiendra la détente. Le bridge. Les cartes. Tout dans certaines congrégations défense de jouer aux cartes. C'est trop dangereux. Dans les congrégations modernes, c'est ça qu'on dit. On l'a pas mis dans les constitutions. Oui. Défense de jouer aux cartes. C'est intéressant. Ça pourrait être question disputée, parce que c'est intéressant à voir. Je ne le traite pas, le jeu, vous voyez. Parce que pour moi, c'est second. Alors, il y a des quantités de choses comme ça qui sont secondes, dont on doit faire la philosophie. Et vous ne pouvez faire la philosophie du jeu qu'à partir de l'art et qu'à partir de la morale. C'est un métaxu. Et c'est ordinairement très lié à l'éducation. Donc, finalisé par autre chose. Nous allons entrer en philosophie morale, l'éthique, comme on dit aujourd'hui, et comme Aristote l'entend. C'est très curieux, vous voyez, aujourd'hui, ça fait partie de ces nuances particulières, un peu métaphysique et philosophie première. Aujourd'hui, si vous dites philosophie morale, si vous dites éthique, oh, très bien. C'est curieux, c'est très très curieux. Pour Aristote, c'est la même chose. Il emploie le mot éthique, du reste. Éthos, les mœurs. C'est les mœurs qu'on étudie. Les mœurs qui doivent venir humaines. Il y a des mœurs dans le jeu. Il y a une éthique du jeu. Il y a une éthique médicale. Il y a une éthique, la bioéthique. On ne dit pas la bio-morale. Ça sonnerait mal. La bioéthique, ça sonne bien. Président de la Commission bioéthique internationale, c'est très bien. Ça vous donne des galons. Tandis que être professeur de morale. Alors on laisse ça à la théologie. Théologie morale. On ne dit pas théologie éthique. Théologie morale. Ouais. Alors, il faut réfléchir un petit peu à ce glissement comme ça des mots. Parce que ça signifie quelque chose. Alors, quel est le passage entre les deux? Est-ce que pour un grec, le point de vue éthique et le point de vue moral étaient très proches? Le mot moral est beaucoup plus moralisant et il est plus latin. Le mot éthique est plus grec. C'est aussi très intéressant, ça, parce que nous tenons à la double civilisation. Le point de vue grec et le point de vue latin. Pierre n'est pas venu à Athènes. Il est venu à Rome. Pourquoi? C'est très très curieux ces choses-là. On doit un peu y réfléchir à ce carrefour moral et éthique. Alors, puisque en éthique, on est dans la seconde année, je ne fais pas une introduction trop grande et historique sur l'éthique, parce que je l'ai fait en première année. Montrer comment est née la philosophie éthique, c'est très intéressant. Donc, posez-vous la question pour vous, comment est née pour nous, occidentaux? dans l'un, ce serait différent. On verrait que de fait, avant la philosophie morale, il y a les traditions religieuses. Et je crois que les traditions religieuses sont le lieu dans lequel est née une philosophie morale. Je crois que ce qui est premier, c'est les traditions religieuses. Autrement dit, génétiquement, selon l'ordre génétique, le point de vue religieux est antérieur au point de vue moral. Et le point de vue moral est né dans le point de vue religieux. Il me semble bien. C'est un problème avec un petit point d'interrogation. Un problème intéressant. Parce que ça montrerait que l'homme ne peut pas être profondément moral sans l'enracinement religieux. Ce que je crois. Étant donné la complexité de l'homme. Alors vous voyez tout le problème de la laïcisation. La morale laïque, comme on disait au début du siècle, et que ça repousse encore, la morale laïque. Qu'est-ce que c'est que la morale laïque? C'est la morale séparée du point de vue religieux, séparée du point de vue chrétien. La laïque, hein, ça représente quelque chose de particulier. Et il est sûr que dans la philosophie grecque, l'éthique est née à travers les traditions religieuses. Je crois que le premier livre d'éthique, c'est une éthique familiale, religieuse, familiale, liée au travail, et tout est lié ensemble. Hésiode, les travaux et les jours. Ça, c'est la première morale grecque. Une morale très, très simple. Comment on démarre le travail? C'est le travail qui éduque. C'est pas si bête. Les psychologues reviennent très fort à ça. Sens éthique. Le jour où quelqu'un ne travaille plus, il n'y a plus de sens éthique. On ne sait plus quoi faire de lui. C'est pour ça que c'est très important, même au noviciat, de découvrir le lieu de nos capacités de travailleurs. Si on travaille au point de vue intellectuel, alors il faut pousser de ce côté-là. Si on a beaucoup de peine, on reprend un travail manuel. En considérant que le travail éduque des deux façons. Mais c'est vrai, la philosophie n'est pas si commode que ça. Retrouver les mœurs du travailleur au point de vue philosophique, il faut du temps. Il faut du temps. Pour croire que vous l'aurez tout de suite. Si vous étiez ingénieur, matheux, mécano, artiste, il faut progressivement entrer dans la pensée philosophique. Et entrer dans la pensée philosophique, ça met du temps. Vous voyez, et ce qui est très difficile, c'est qu'il n'y a pas de méthode applicable à tout le monde. On entre en philosophie par le violon, par la flûte. On entre en philosophie par la cuisine. Tailleur de pierre, l'expérience qu'on a et comprendre que la philosophie va être une réflexion sur cette expérience. Et ça, c'est très important. Ne pas quitter trop vite votre expérience. Parce qu'alors, vous vous déracinez et vous partez vous idéalisez. La philosophie n'est pas une idéalisation. Ça, c'est les idéologies. Alors, les idéalisations, c'est très bien, mais il faut faire grande attention, ça nous fait perdre pied. Tandis que l'expérience qu'on a, ça nous fait le contact avec le réel. Si, au fond, on n'a aucune expérience particulière, c'est l'imaginaire. L'imaginaire est le premier lieu de l'intériorité pour moi. Je ferme les yeux, je me bouge les oreilles, je mets ma tête entre mes mains. Qu'est-ce qui se passe en premier lieu? Des représentations imaginatives. Un film. J'ai oublié ça. Parce que j'étais bête dans ma vie passée. J'étais merveilleux dans ma vie passée. Oui, tout de suite, tout ce qui s'est passé. Le ne vis jamais ça. La clôture, même si la clôture n'est pas farouche, parce qu'elle était beaucoup plus farouche avant, c'est quand même un sevrage qui fatalement augmente l'imaginaire. Avant d'entrer, on ne pensait peu, à moins d'être un gourmet de premier ordre, au repas qu'on aurait à midi. Dès qu'on entre, on se met à penser, tiens, c'est complètement idiot, hein. Si le sevrage est fait pour ça, ah, non, il faut beaucoup mieux, faire autre chose. Mais le petit raisonnement immédiat, ce novice, au bout d'un mois, il me manque le monde, j'ai pas assez d'informations. Qu'est-ce qui se passe en Chine? Après les événements, qu'est-ce qui se passe au Tchad? Qu'est-ce qui se passe en Colombie? Qu'est-ce qui se passe, voyez, tout de suite. On voit très bien ça, l'imagination, on est sevré. Pas de télévision, sevrage terrible, radical, pas de TSF. Et puis il y a des novices qui en emportent chez eux, sans rien dire, parce qu'il faut avoir les informations. Je vous donne de mauvaises idées. Hein. Et les romans policiers, on dit rien. La douane avec le permis, ça se passe très très bien. C'est très bien. C'est très facile. Parce que ils ne pensent pas à ça. C'est un saint homme, alors ils ne pensent pas à ça. Ils croient qu'on entre tout de suite, au noviciat sans penser à tout ça. Mais sevrage, c'est vrai. Ayez conscience, chacun, du sevrage dans lequel Dieu vous met, qui fait qu'à ce moment-là, il y a une imagination qui commence à battre la campagne. Tout ce que vous avez vécu avant, tout ça amplifié. Avant, il y avait une activité. Il n'y a plus d'activité. Alors, la première intériorité, c'est l'imaginaire, lié aux passions, lié aux instincts. Ça, c'est sûr. Mais première découverte de l'intériorité. Mais l'intériorité qui n'est pas très belle. Ça grouille. Il y a des quantités de grenouilles qui sont là. Des quantités de grenouilles. Première intériorité. Puis petit à petit, vous arrivez à l'intériorité profonde. Entre deux, il y a une affectivité, l'intériorité de l'amitié. C'est mieux que les grenouilles. L'amitié qui va prendre une très grande place. Puis, les vertus théologales, l'intériorité des vertus théologales. Il y a des chrétiens qui ne sont jamais arrivés à l'intériorité des vertus théologales et qui vivent leur vie chrétienne au niveau purement imaginatif. Le noviciat est fait pour cette intériorité. Et la vie religieuse est faite pour découvrir une intériorité toujours plus grande. En comprenant que c'est ça qui est essentiel à notre vie chrétienne. On ne peut pas être chrétien sans intériorité. Un chrétien qui est mondain, c'est la pire des choses. C'est vrai, on ne peut plus supporter ça. Il vit de relations. Alors ce n'est pas la réalité, ce n'est pas l'intériorité. C'est un monde intermédiaire d'imaginaire qu'on a construit. Et on ne sait plus du tout ce que représente la vraie vie chrétienne. Mais je crois que c'est très important de comprendre qu'il y a l'expérience externe. Puis quand on lève les ponts-levis, sevrage, l'intériorité qui commence. Mais dans l'intériorité, il y a la zone imaginative, qui est très vaste, hein, l'imagination. Alors si on est un petit peu artiste, l'imagination, l'imaginaire de tous les possibles et subitement l'exigence morale. Tu dois faire ça. Vous voyez, on s'est donné un petit programme de vie. Chacun d'entre vous, hein, avec le père maître, puis sur les plans officiels, avec le prieur. On s'est fait un petit programme de vie. Quand il y a les cours, c'est facile. Mais en dehors des cours, est-ce qu'on n'a rien à faire? Non. On doit faire quelque chose. Qu'est-ce que tu dois faire? Oui, le devoir. Le devoir apparaît tout de suite. Puis au-delà du devoir, tiens, l'éclosion d'amitié. Regarde ce frère, il est tellement délicieux. Je savais pas qu'il existait des trésors comme ça, cachés, on ne le voyait pas. Mais il n'y en a qu'un qui vraiment est intelligent de vision. Il n'y en a qu'un, c'est celui que j'aime. C'est celui-là, j'ai bon goût. J'ai tout de suite tapé dessus. Les autres, pff, c'est de la grisaille. Il y en a un que j'aime. Vous voyez, l'éclosion de l'amour. Et c'est vrai. L'éclosion de l'amour. Je me souviens quand j'étais père maître, je n'ai pas été longtemps, mais j'ai été un petit bout de temps. Je connaissais des médecins et des psychologues qui m'ont dit, mais le noviciat, mon père, mais c'est le laboratoire rêvé au point de vue psychologique. Le laboratoire rêvé. Vous allez voir comme ça grouille. Tout ce qui va se lever, point de vue affectif, c'est une serre chaude. Alors vous n'aurez qu'à la chauffer un peu plus. Et vous verrez, ça poussera. Oh là là. Alors j'ai répondu, je ne suis pas permettre pour être directeur d'un laboratoire. J'essaie de comprendre, mais c'est vrai. Un vieux permet, disait au noviciat, il peut arriver n'importe quoi. Laboratoire, psychologique, on chauffe. Et parce que le sevrage fait une serre. Une serre, c'est toujours un sevrage. Et c'est toujours une serre chauffée et surchauffée. Et ça pousse de façon étonnante. Et puis, au-delà de tout ça, et ça peut arriver beaucoup plus vite. Quelquefois, c'est la première chose qui arrive, avec la grâce de Dieu. L'intériorité des vertus théologales. On commence à comprendre qu'on a une intériorité divine. L'intériorité de la foi, de l'espérance et de la charité. Je suis capable d'atteindre directement le mystère de Dieu. Mystère du Christ. Ça, c'est merveilleux. Alors, je comprends pourquoi le sevrage. Ce sevrage, c'est pour l'intériorité des vertus théologales. Et qu'est-ce qui peut lutter contre l'imaginaire? Ce n'est pas le devoir éthique, moral. C'est les vertus théologales. Les vertus théologales me donnent une intériorité beaucoup plus grande, beaucoup plus profonde. Cette intériorité de la vie de foi, d'espérance et d'amour, dans laquelle le Christ est présent. Voyez bien ces trois intériorités, parce que ça, c'est capital pour ce que nous allons essayer de comprendre ensuite. Donc, l'expérience de l'intériorité qui fait la différence avec l'extériorité. Ce que les psychologues disent très bien, on est introverti, extraverti. C'est évident, psychologiquement, c'est très simple à comprendre. Il y a des gens qui sont introvertis. Ils sont bien qu'avec eux-mêmes. Oh, je suis très bien quand je suis seul en cellule. Oh là là, c'est merveilleux. Dès que je sors de la cellule, extraverti, je rencontre toujours un imbécile. L'enfer, c'est l'autre. Vous voyez? Tandis que là, c'est le ciel. C'était que je suis avec moi. Je suis avec l'être le plus intelligent du monde qui soit. C'est parfait. L'être le plus aimable, merveilleux. Je m'aime. Le les autres. Alors, il y a tout de suite deux catégories, hein, psychologiquement parlant. Ça, c'est la division psychologique. Il y a quelque chose de juste. Je dépasse ça. Je dis que l'homme, tout homme qui est vraiment homme, implique les deux. Le milieu dans lequel je suis, un milieu d'années, le noviciat, c'est un milieu. Un microclimat, comme on dit aujourd'hui. C'est un microclimat, le noviciat, par rapport à l'humanité d'aujourd'hui. Et ce microclimat fait que c'est assez particulier. Tout le monde n'est pas admis dans ce microclimat. Patte blanche. Hein. C'est un microclimat. Tandis que le point de vue est dans ce microclimat. Il y a l'intériorité, l'homme. Dans cette intériorité, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'imagination. Avec les souvenirs. Ah, les souvenirs. Les dernières vacances. La dernière cigarette. Ah, c'est. Et pour d'autres, c'est le dernier whisky. Là, c'est bon. Le microclimat, l'imaginaire. J'ai coupé les ponts et puis je me retrouve à moi, l'imaginaire. Dans l'imaginaire, quelquefois, il y a le point de vue du devoir. C'est très sérieux, le noviciat. Le devoir. Où je dois dépasser l'imaginaire. Fais ceci. Les commandements de Dieu, la loi. C'est très sérieux, la loi. Il y a une fois, au noviciat, on m'a donné le règlement de vie. Et le règlement de vie, je sais très bien, tu dois faire ça. 9h30 un cours, 10h30 la messe, après encore un cours, puis après le repas. Mais le repas n'est même pas une détente, on doit écouter la lecture. Alors, il y a des voix différentes dans la lecture. J'écoute, et je mange. Et quand c'est très bon, je n'écoute plus. Alors, exprès, c'est jamais très bon. Pour qu'on puisse écouter. Mais c'est quand même assez curieux, ça. Puis alors, la véritable intériorité, le mystère de la foi, de l'espérance et de l'amour. Avec l'adoration. Ah, là il y a une intériorité. Ça brûle. Mais quelquefois c'est très glacial. Ça brûle, mais ça peut être très sec. Parce que ça a brûlé. Il ne reste plus rien. Avant d'entrer, c'était merveilleux. Dès que je faisais un acte de foi, Dieu était là, c'était merveilleux. Dès que j'entre, la steppe. Plus rien du tout. Je sais même plus ce que ça signifie. Ça a perdu son sens. C'est curieux, ça. Voilà les trois degrés d'intériorité. Alors, quelquefois, tout de suite, mon intériorité de foi se donne à moi. Alors, j'ai la présence de Dieu. La présence de Jésus. Ça, c'est merveilleux, cette présence-là. Je resterai bien là tout le temps. La triple intériorité. Je crois que ça, on peut tous comprendre ça. C'est facile à comprendre. Et c'est très important. La philosophie part de l'expérience. La philosophie éthique part de l'expérience interne en premier lieu. Ça, c'est sûr. Pas d'éthique sans l'expérience interne. Mais pas une expérience interne de l'imagination, non. L'expérience interne du devoir, ah, de la responsabilité. C'est très vrai, ça. Tu dois faire ça. Tu es responsable. Tu entres en noviciat, tu es responsable pour toute l'humanité. Et puis les gens internes de la foi, mais non, ça dépasse le moi du morave. J'entre là, et c'est vrai, en tant que chrétien, mon expérience de la foi, de l'espérance et de la charité devient première. Et tout le noviciat, et toute ma vie religieuse, c'est pour intensifier l'expérience de foi, d'espérance et de charité. Parce que je sais que dans le monde d'aujourd'hui, le poids de l'extériorité est tel que je risque de me laisser emporter à la dérive. Parce que s'il n'y a plus d'intériorité, dans l'extériorité, dans ce milieu de l'extériorité, je risque de me laisser emporter. Oui. Alors, je comprends ça, que pour moi, l'expérience de l'intériorité, c'est premièrement l'expérience de la foi, la rencontre avec Jésus. Je peux réfléchir là-dessus, et j'aurai alors ce qu'on appellera l'éthique chrétienne. Je rencontrerai Jésus. Ça, c'est vraiment dans la foi. C'est vraiment dans l'espérance et la charité. Je peux réfléchir sur cela. Vous dites à un ami, j'entre à Saint-Jean. Fin septembre, un ami qui n'est pas croyant, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tu vas t'enterrer alors que tu avais tellement de qualités. Tu aurais fait quelque chose tellement de bien dans le monde. Pourquoi tu entres là? À quelqu'un qui n'est pas croyant, qu'est-ce que vous dites? Ah, j'ai rencontré pour être plus unis au Christ. Nous sommes tous entrés pour être plus unis au Christ. C'est ça qui donne la signification à toute ma vie religieuse. La vie religieuse n'aurait plus de sens si je ne vois pas cette finalité. Et ça, nous le disons tous. Notre vocation, c'est ça. Vous voyez, dans la vie chrétienne, qu'est-ce qui compte? C'est être uni à Jésus. Dans ma vocation religieuse, qu'est-ce qui compte? Être uni à Jésus. Et c'est ce que je dis spontanément. Et je prends l'évangile, qui me dit, qui me montre la rencontre du jeune homme riche. Nous sommes tous ces jeunes gens riches. Quand on est jeune, on est toujours riche. Parce qu'il y a des tas de promesses. Une bonne banque, il y a des promesses. Quand on est déjà plus âgé, il y a moins de promesses. L'évangile du jeune homme riche. Vous voyez, Jésus n'a pas donné l'exemple du vieux rabbin qui rencontrait Jésus. Ce n'est pas donné ça comme exemple. Le vieux rabbin qui rencontre Jésus. Il aurait pu donner ça comme exemple. Non, le jeune homme riche. Les vierges sages et les vierges folles. On voit très bien. C'est très cru et c'est intéressant de voir ça. Tandis que Marie a rencontré le vieillard Siméon. Mais non pas du tout pour dire au vieillard Siméon, suis-moi. Elle n'a pas dit ça du tout au vieillard Siméon. Elle l'a laissé dans le temple avec l'espérance de disparaître le plus vite possible. Partir au ciel. C'est ça qu'elle lui a dit. C'est très curieux ces rencontres. Avec Jésus, dit, suis-moi. Et la vocation, elle apparaît dans l'évangile sous deux aspects. Celui qui suit Jésus, tout de suite. Puis celui qui résiste. Si tu veux être parfait, suis-moi. Si tu veux être parfait, donc si tu veux la sainteté, suis-moi. Si tu veux vraiment vivre entièrement, vends tout ce que tu as. Donne-le au pauvre et suis-moi. Et le jeune homme riche ne peut pas le faire. Vous voyez, la vocation apparaît comme quelque chose de négatif. On doit tout abandonner pour suivre Jésus. Parce que suivre Jésus se fait dans la foi. Alors, il y a des moments où je vois plus rien. Il y a des moments où c'est très clair. Donc, l'éthique chrétienne, la rencontre avec quelqu'un que je considère comme un maître, un seigneur, quelqu'un capable de me diriger. Et je le suis. Et l'éthique chrétienne commence par « suis-moi ». C'est très très curieux et c'est très intéressant de voir ça. C'est la rencontre avec une personne. C'est la personne, c'est le Christ. Une personne, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est la rencontre avec une personne. Suivre. C'est une éthique qui est toute commandée par une relation personnelle. Suis-moi. Il y a, en plus, puisque la rencontre avec le Christ est d'ordre gratuite, surnaturelle, elle implique que, petit à petit, je prenne un sens de ma responsabilité. Je suis Jésus, mais en suivant Jésus, je suis aussi responsable de tous ceux qui sont autour de moi. Donc l'éthique chrétienne va impliquer un sens de ma responsabilité. Et ce sens de la responsabilité n'est pas détruit par la rencontre avec Jésus. Alors je vais comprendre qu'il y a au plus intime de moi-même, dans cette lumière avec le Christ, je vais découvrir l'homme, non plus le croyant, mais l'homme. Pour être un croyant, il faut être un homme capable de tout abandonner et suivre Jésus. Pourquoi le jeune homme riche n'a-t-il pas suivi Jésus? Parce que l'homme en lui n'avait pas compris ce qu'il y avait d'essentiel dans l'homme. Il aimait mieux les richesses. Donc toutes ces relations, que l'amour. Le primat de l'amour a été abandonné. Parce que quand on rencontre Jésus, c'est le primat de l'amour. C'est le primat de l'intériorité. La vie religieuse, c'est de donner témoignage du primat de l'intériorité, du primat de l'amour, dans un monde où l'extériorité domine. Mais intérieurement, c'est pas commode. Si ma rencontre avec Jésus n'est pas suffisamment forte, je dirais non, c'est pas fait pour moi. Alors, j'aime mieux rester comme tout le monde, en contact avec les autres. Vous voyez, la richesse, le primat de la richesse. C'est très curieux que c'est tout de suite le primat de l'amour ou le primat de la richesse. Et ce point de vue du contact avec Jésus va impliquer, pour le suivre, un sens que dans l'homme, il y a le devoir. Mais au-delà du devoir, il y a sa capacité d'aimer. Alors c'est là où je découvre une éthique humaine, religieuse. Vous voyez comment l'éthique chrétienne se fond sur une éthique humaine, religieuse. Comprendre, humainement parlant, le primat de l'amour. Si je ne vois pas le primat de l'amour, la grâce ne pourra pas passer. Si je demeure dans le primat des richesses, des relations, c'est d'oublier le primat de l'intériorité et de se laisser prendre par l'extériorité. Toute tentation, c'est le primat de l'extériorité. Et ça, il faut bien le saisir, hein, pour voir la naissance pour nous, chrétiens. La naissance de l'obligation d'une éthique de l'amour, d'une éthique religieuse, au-delà de l'éthique du devoir, au-delà des tentations. Donc, il y a deux dépassements à faire pour comprendre la naissance de cette éthique humaine, religieuse. Le dépassement des tentations du primat de l'extériorité et le dépassement du devoir. Pour comprendre qu'il faut découvrir dans le cœur de l'homme, au point de vue purement humain, le primat de l'amour. Seul le primat de l'amour va permettre d'avoir une éthique humaine qui est le véritable fondement de l'éthique chrétienne. Oui. On reviendra là-dessus, parce que c'est important de voir pourquoi nous commençons l'éthique humaine par le point de vue de l'amour, et non pas par le point de vue du devoir. Kant fonde toute sa morale sur le devoir. Pourquoi ne suis-je pas kantien ? Ce serait tellement plus commode. D'une certaine manière, ce serait beaucoup plus net. Vous entrez au noviciat, on très bien, il faut aimer Dieu pour aimer Jésus et pour maintenir ce primat de l'intériorité de Jésus. Ce serait tellement plus simple. On vous donne, tout simplement, un règlement de vie. Faites cela, et puis ça ira. C'est pas suffisant, l'éthique du devoir. L'éthique du devoir existe, je ne la nie pas. Elle existe, mais elle ne va pas assez loin